Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la dernière séance de notre colloque humanitaire et médecine, la Croix-Rouge à l'épreuve du feu. Et merci pour avoir renoncé à une belle promenade au bord du lac dans cette magnifique journée ensoleillée pour être avec nous, pour d'un côté compléter les travaux scientifiques et d'autre part pour fêter solennellement l'occasion historique que on va discuter dans la première partie de notre séance. Nous sommes en effet dans une salle historique pour des raisons que Monsieur Brachard va vous expliquer. Nous sommes entourés par les portraits des grands savants intellectuels et artistes genevois qui nous regardent d'un œil quelquefois bienveillant et quelques autres fois plutôt plus fréquemment d'une air sévère. Et donc on est là dans un lieu qui mérite d'être habité par les discussions que nous allons développer ce matin. Elles sont trop tardées étant donné que le quart d'heure académique s'est déjà écoulé. Je donne la parole à M. Jean-Marc Brachard qui représente ici la Société des Arts qui nous accueille et dont il est le président.
Merci. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue au Palais de l'Athénée où vous venez célébrer aujourd'hui, jour J, je crois, dans ce salon, l'événement qui s'y est déroulé et qui, comme vous le savez, est la fondation de la Croix-Rouge. Cette année, notre Société des Arts célèbre elle aussi un anniversaire important, les 150 ans de ce Palais de l'Athénée, qui n'était pas complètement terminé en octobre 1863 lorsque les fondateurs de la Croix-Rouge s'y réunirent. C'est grâce à la générosité de Jean-Gabriel Hénard qui le fit construire pour elle que la Société des Arts est aujourd'hui propriétaire de ce splendide palais. Classé monument historique, c'est un haut lieu du patrimoine genevois. Notre société dispose ici d'un merveilleux espace de conférences, de concerts, de séminaires ou de réceptions. Ces salons historiques et la fameuse salle des abeilles, qui viennent d'être rénovés, vous pourrez voir tout à l'heure, accueillent régulièrement les activités de la société, mais aussi les activités de plusieurs sociétés savantes ou scientifiques. Et il faut le savoir, notre maison est ouverte à chacun pour l'organisation d'événements publics ou privés, avec une petite réserve à condition que l'on ne danse pas et qu'on ne fasse pas de politique. Fondée en 1776, la Société des Arts est l'une des plus anciennes sociétés à but culturel de Suisse. Ses fondateurs, l'horloger Louis Faizan et le savant Horace Bénédicte de Saussure, qui est derrière moi peint par Saint-Ours, c'est celui qui conduisit en 1787 la première expédition scientifique au sommet du Mont Blanc. Ces messieurs avaient pour but de contribuer au progrès et à la promotion de l'artisanat, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture dans la République de Genève. Rapidement, les beaux-arts entrèrent également dans les préoccupations et les programmes de la société. Cette société a toujours regroupé des membres issus de milieux sociaux et d'horizons les plus divers. Un horloger et un membre même éclairé de l'aristocratie genevoise, ça avait commencé de cette manière-là. La Société des Arts a pris de nombreuses initiatives afin de se familiariser avec les découvertes scientifiques et techniques et d'améliorer la formation et les compétences locales. Elle a été, et on ne sait pas toujours, à l'origine de plusieurs institutions genevoises, comme l'école d'horlogerie, l'école des beaux-arts et l'école de chimie, et elle a révélé au public le talent d'un grand nombre d'artistes, ce qui est le cas encore aujourd'hui, parmi lesquels Barthélemy Mène, dont vous avez plusieurs tableaux dans la galerie d'accès, et Ferdinand Adler, dont nous ne possédons malheureusement plus de tableaux. Depuis 1820, la Société des Arts est constituée de trois sections appelées classes. La plus ancienne est la classe d'agriculture, qui aujourd'hui est devenue la classe d'agriculture et d'art de vivre, qui organise des activités un petit peu club, voyage, dîner et des choses qui sont encore en rapport avec l'agriculture. Elle décerne un prix de 5000 francs tous les 2 ans. La classe des beaux-arts, qui est la plus nombreuse et qui, elle, continue aussi un travail d'encouragement à l'art en distribuant des bourses et en distribuant tous les 2 ans un prix extrêmement bien doté de 50 000 francs. Et la classe industrie et commerce, qui elle organise beaucoup de conférences assez passionnantes sur le monde de l'industrie et du commerce genevois. Ces classes ont adapté leurs activités à l'évolution des besoins et des préoccupations de notre société au cours des années. En outre, depuis 2000, la société organise les Jeudis du piano, récital destiné à soutenir de jeunes virtuoses récemment diplômées. Demeurée fidèle aux objectifs de ses fondateurs, la Société des Arts désire offrir aujourd'hui à toutes les personnes s'intéressant au monde de l'art, de la culture ou de l'économie la possibilité de parfaire leurs connaissances et d'échanger leurs idées. Elle s'efforce également de promouvoir de jeunes talents dans les domaines des beaux-arts et de la musique. Enfin, autre chose qu'on sait peu, la Société des Arts est propriétaire d'une collection importante de tableaux, de dessins, sculptures, mobiliers et objets d'ornement qui proviennent de commandes, d'acquisitions, mais aussi de dons et de legs. Cette collection, très importante, est en dépôt au Musée d'Art et d'Histoire, et vous ne le savez pas toujours, mais vous en voyez souvent des échantillons lors d'expositions, même à l'extérieur de Genève. Cette année du 150e anniversaire du Palais est consacrée notamment à célébrer la mémoire de Jean-Gabriel Hénard, décédé aussi il y a 150 ans. Et vous pourrez découvrir dans cette plaquette le programme complet. Il faut bien que je fasse un petit peu de publicité pour ma société. Le programme complet des conférences, voyages et autres activités que nous avons organisées. Et vous aurez compris le message, nous accueillons avec grand plaisir de nouveaux membres. Tous les renseignements sont là-dedans. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Brachard. Et j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à notre collègue et ami Bernard Lescaze, qui va nous parler plus spécifiquement de la Société des Arts du Palais de l'Athénée à l'époque de la fondation de la Croix-Rouge. Bernard Lescaze a suivi depuis toujours deux parcours parallèles, d'un côté juriste-politicien, de l'autre côté historienne spécialisée dans la vie politique et culturelle genevoise. Il a réalisé l'exploit de ce qu'un homme politique italien, il y a quelques temps, appelait les convergences parallèles, permettant de mettre ensemble deux domaines apparemment éloignés, mais qui sont bien au contraire étroitement liés. J'ai le plaisir de lui donner la parole.
Merci, Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs, vous lisez ici, dans cette salle, fut fondée en octobre 1863, l'institution de la Croix-Rouge. Et en effet, nous fêtons ici, jour pour jour, le 150e anniversaire de la réunion du premier comité de secours réuni à Genève. Vous le savez, conférence internationale réunie à Genève, suite à l'échec du congrès de Berlin qui devait primitivement rassembler les fondateurs de la Croix-Rouge. Résultat, la Croix-Rouge est fondée à Genève et pas à Berlin. Bien, elle est fondée dans ce bâtiment. Alors nous n'allons pas reprendre ce qu'a dit le président Brachard, mais nous allons un tout petit peu voir de plus près comment les fondateurs de la Croix-Rouge se sont réunis dans ce bâtiment et pourquoi. Il faut se souvenir qu'à l'époque, à Genève, il existe une forte hostilité entre, on va faire pas de la politique, mais présentation, les radicaux, qui domine en partie le gouvernement de cette époque, mais pas complètement, et les conservateurs ou libéraux de l'époque. Le partage n'est pas absolu. Bien sûr, la Société des Arts représente essentiellement la vieille Genève, et l'Institut national genevois créé 10 ans auparavant, en 1853, plutôt les radicaux. Mais c'est différent. Et j'en prends pour exemple le fameux philosophe Henri-Frédéric Amiel, qui a écrit un journal intime qui n'était pas destiné à la publication, qui a été nommé professeur à l'Académie par les radicaux, qui était lui-même membre de l'Institut national Genevois et même président de sa section de littérature, et qui pourtant manifeste dans son journal de violents sentiments anti-radicaux. Je vous donne juste un exemple. En novembre 62, pour désarçonner le parti fasciste, il faut veiller aux urnes et aux scrutins. Vaincre officiellement par le vote, ensuite défendre l'arme au poing, sa victoire légale, et faire aux catholiques toutes les concessions et faveurs imaginables. C'est-à-dire que vainqueurs, les libéraux sont encore vaincus, car les catholiques sont les renards dans nos entrailles, l'acide sulfurique destiné à détruire la patrie genevoise. Vous voyez que les philosophes sont parfois bien violents. Si je vous cite Amiel, ça n'est pas sans arrière-pensée, car en 1863, au moment même où se tient la première conférence, le 25 octobre, il dénonce la grande lutte entre les deux partis, les créchiers et les indépendants, mais, dont il fait partie, mais pas un mot sur la conférence qui se tient ici, pas un mot. Et durant toute la semaine et après, pas un mot. Ça n'est que l'année suivante, en août 64, pour la conférence diplomatique, que tout d'un coup, Amiel en parle dans son journal, et pour ceux qui l'ignoraient, je ne résiste pas à vous le dire, ouverture du Congrès international pour le service des ambulances pendant les guerres. C'est de Genève que part cette belle et honorable initiative. Une série de fêtes va marquer cette date. Nos campagnes des bords du lac se livreront au feu de fêtes de l'hospitalité. Et effectivement, il va parler de la fête chez le banquier Verne à Fleur d'Eau, après-midi fête à Fleur d'Eau, campagne Théodore Verne à Versoix, donnée au Congrès international. Le vapeur L'Helvétie avait été nolisée à cet effet. Nous étions environ 200 personnes. La société m'a beaucoup intéressé. Donc, Amiel était invité à Versoix. Il le sera d'ailleurs quelques jours plus tard, le 12 août, ce soir, grand festival Bartoloni, qui avait donc refusé Carteret Vienne, toujours pour le congrès international, feu d'artifice, musique, etc. Et puis malheureusement, il part en vacances le 15 août, et donc il n'y a pas les détails des fêtes chez Gustave Moynier, notamment. C'est donc dire que la réunion d'octobre 1863 s'est tenue dans une certaine discrétion. Oh, une discrétion, vous le verrez tout à l'heure, pas complète, puisque malgré tout, la presse s'en fera plus tard l'écho. Et c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure le président Brachard, que officiellement, ce bâtiment est inauguré le 5 janvier 1864 par une fête dans laquelle les invités sont priés de visiter le bâtiment une heure avant le discours d'Alphonse de Candolle, président de la Société des Arts, et une heure après. Et vous avez des relations, notamment dans le journal de Genève, de ce magnifique bâtiment. On décrit le grand salon, celui où vous vous trouvez, les locaux de la Société Géographie à l'étage, les locaux loués à l'entresol, la salle des abeilles. Tout ceci est, on remercie bien entendu, Monsieur et Madame Gabriel Hénard, car à cette époque, on ne disait pas Jean-Gabriel, mais Gabriel Hénard, feu Monsieur Gabriel Hénard, il était mort quelques mois auparavant, et son épouse qui reçoit le titre de membre honoraire de la Société des Arts à cette occasion. Il faut souligner qu'à cette époque, la Société des Arts, ça a changé, bien changé depuis, est une société essentiellement masculine qui n'a que deux ou trois membres honoraires féminins au XIXe siècle. Madame Henriette Ratt, qui a donné avec sa sœur et son frère de quoi construire le musée Ratt, qui appartient jusqu'en 1851 à la Société des Arts, et Madame Amélie Munier-Romilly, le peintre bien connu. Alors, ce bâtiment est donc inauguré en 1864, en janvier 1864. Le déménagement, parce qu'il y a déménagement, des tableaux, des bibliothèques qui se trouvaient à l'époque à la rue des Chanoines, aujourd'hui la rue Calvin, puisque la Société des Arts avait dû migrer du musée Ratt à la rue des Chanoines, dans un lieu privé, se fait durant l'automne 1863. Tous les rapports des trois classes dont on vous a parlé, classe de commerce et d'industrie, classe d'agriculture, se font encore à la rue des Chanoines à fin mai, début juin 1863, et chaque fois, les présidents des classes disent « c'est la dernière fois que nous nous retrouvons ici ». Ce qui veut dire très clairement que le déménagement, on le voit d'ailleurs par certaines sources et certains rapports, se fait durant l'automne 1863. On peut donc dire, en exagérant un peu, que la conférence internationale a essuyé les plâtres d'un bâtiment, d'un salon, et que Alphonse de Candolle, le 5 janvier 1864, a pendu la crémaillère. Voilà. Alors, comment se fait-il que cette conférence ait pu se tenir dans ces salons, dans ce salon? Et là, on s'aperçoit que si la Société Genevoise d'utilité publique a été le véhicule porteur de la fondation de la Croix-Rouge, la Société des Arts en a été l'hôte. Car sur le premier comité du CICR, 4 membres sur 5 font partie de la Société des Arts. Le premier, le plus illustre, c'est le général Dufour, qui est membre de la classe d'industrie et de commerce depuis 1817. Donc, à peine rentré à Genève. On voit d'ailleurs à cette époque que la Société des Arts fait adhérer beaucoup de jeunes gens prometteurs. Ça sera d'ailleurs le cas pour les autres membres du CICR, du futur CICR. Donc, le général Dufour, en 1863, est le vice-président. Mais appartiennent également à la classe d'industrie et de commerce Gustave Moynier, avocat, et Henri Dunant, qui n'a pas de profession. Certains sont marqués rentiers, d'autres propriétaires, d'autres agriculteurs, et tout leur métier. Henri Dunant est l'un de ceux qui n'a aucune mention derrière son nom. On peut en déduire ce qu'on l'on veut. Gustave Moynier, mais avocat. Donc nous voilà déjà avec 3 membres du futur comité, membre de la Société des Arts. Et il y en a un 4e qui, lui, est membre de la classe des Beaux-Arts. C'est l'un des 2 médecins. Alors, c'est Théodore Monnoir. Et Appia ne sera membre de la Société de nouveau classe d'industrie qu'en 1868, d'après ce que j'ai vu. Mais donc, vous voyez, 4 sur 5, c'est quand même une belle proportion, dont le vice-président, et on peut comprendre pourquoi et comment la conférence s'est tenue ici. Alors, ce qu'il me reste encore à vous présenter, c'est d'une part comment cette conférence a été reçue dans la presse, mais surtout un peu ce qu'est la Société des Arts à cette époque. Vous avez vu les tensions qui peuvent exister entre dans le monde politique genevois, elles existent aussi d'une certaine manière dans le monde intellectuel par la volonté qu'a manifestée le gouvernement radical de déposséder en 1847-49-50 la Société des Arts de son bâtiment, le musée Rath, et d'une partie de ses collections, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Le motif était que la Société des Arts était alors organisée en fondation. Et le gouvernement a essayé a modifié la loi sur les fondations. Je vous passe les disputes procédurales, juridiques. Même la vieille mademoiselle Henriette Rath a écrit par deux fois au conseil administratif, au conseil d'État, pour dire que son intention, comme celle de son frère et de sa sœur, était bel et bien d'accorder à la Société des Arts un musée, un bâtiment. Le musée Rath, qui est le premier musée, rien n'y a fait. Et la Société des Arts s'est vue exproprié, je crois qu'on peut le dire comme ça, exproprié en 1851. C'est alors que lentement a germé sans doute dans l'esprit de Jean-Gabriel Hénard l'idée d'offrir un bâtiment à la société. En réalité d'ailleurs, en 1821 déjà, Jean-Gabriel Hénard avait eu l'idée de constituer un capital par des annuités régulières qui aurait dû se monter 154 ans plus tard, en 1975, à une somme de 6 millions et qui ne devait être placée qu'en rente française. Et c'est seulement si la France n'existait plus que les financiers auraient pu la placer dans d'autres rentes. Et il expliquait que bien sûr 154 ans c'était long, mais que là, il y aurait une belle somme pour réaliser 5 bâtiments qu'il jugeait nécessaires à Genève. D'une part, un musée. 5 ans plus tard, grâce à la générosité des Rath, en 1826, le musée sera fait. Une prison. Ça sera la fameuse prison pénitentiaire. Et Alphonse de Candolle, dans son discours inaugural en 64, se moque en disant, fait une très légère ironie, on l'a construite et on l'a déjà démolie. Ce sera un hospice, et c'est effectivement la maison de retraite du petit Saconnet qui est construite quelques années auparavant. C'est un lieu d'assemblée, et c'est le lieu d'assemblée qui manque, et c'est ce lieu d'assemblée qui sera, par la générosité de Jean-Gabriel Hénard et de sa femme, construit en 1862-63 et inauguré en 1864. Donc vous voyez que malgré tout, le généreux mécène avait pendant plus de 40 ans poursuivi la même idée. En 1863, la Société des Arts compte 777 membres. Et à l'occasion de l'inauguration, le 5 janvier, Alphonse de Candolle espère bien que grâce à ces nouveaux bâtiments, comme vient de le faire Jean-Marc Brachard maintenant, il y aura un afflux de nouveaux membres. Et c'est vrai, il y a eu un afflux de nouveaux membres, puisqu'en 1864, on compte 871 membres. Alors là, dans les trois sections, la répartition est un peu inégale. Ne croyez quand même pas que je sache tous ces chiffres absolument par cœur. Je suis quand même obligé de vous dire que la classe des beaux-arts a 151 membres en 1863, la classe d'agriculture 190 et industrie et commerce 399. On voit donc qu'elle est pratiquement à cette époque le double des autres. Ça se voit aussi dans la composition du premier CICR parmi ces classes. Ce qu'on peut aussi voir, c'est pas forcément diriment, mais j'ai essayé de voir où on avait recruté les membres. Alors la seule chose que je peux vous dire, parce que j'étais un peu serré par le temps, c'est que en 1863, il y a 2 photographes. Et qu'en 1864, c'est pas mal hein, pour l'époque, il y a 8 personnes qui se qualifient professionnellement de photographes. Donc, on a récolté parmi la centaine de membres supplémentaires 6 photographes nouveaux, dont pratiquement tous les noms des photographes dont aujourd'hui il y a des fonds divers qui se passent. Ce que je devrais encore vous dire, parce que je peux vous raconter beaucoup de choses sur le développement de la Société des Arts, mais en 1863, c'est une société bien établie, qui a des programmes très réguliers, qui parfois, en tout cas pour la classe d'industrie, recoupent des préoccupations de la société d'utilité publique. J'ai découvert qu'en durant l'hiver 1863, on s'intéresse beaucoup aux constructions, aux petites maisons ouvrières, aux logements ouvriers à bon marché, notamment grâce à l'architecte Vaucher, qui à Marseille n'a pas seulement construit le palais impérial, etc., mais tout un petit quartier de maisons ouvrières et qui ne consacre pas moins de 3 séances, fort bien suivies, disent les au fond procès-verbaux, à ce sujet. Et puis quand M. Antoine Morin a également parlé des maisons ouvrières. Or, c'est très exactement un des sujets de préoccupation de la Société genevoise d'utilité publique et même de Gustave Moynier en particulier. C'est intéressant de voir que ces préoccupations se recoupent l'une l'autre. Si l'on en revient à cette semaine d'octobre 1863, vous savez qu'à cette époque, les journaux sont beaucoup plus minces qu'aujourd'hui et beaucoup plus modestes. Ils se composent généralement de 4 à 8 pages. C'est dire que l'information doit être sérieuse. Et où va-t-on trouver des informations? Eh bien, plutôt dans l'organe des conservateurs, à savoir le Journal de Genève. C'est le Journal de Genève qui défend, d'ailleurs, durant l'année 1863, la Société des Arts, lorsqu'un débat a lieu au Grand Conseil, non pas sur la Société des Arts, mais sur son rival, l'Institut National Genevois, et sur la subvention que le budget de l'État accorde à l'Institut National Genevois. Et vous avez des phrases admirables, mais qui font un peu sourire aujourd'hui, du Journal de Genève sur la spontanéité, la liberté et l'appui volontaire du public, mais en réalité de la population, qui n'en sont pas moins les ressorts moteurs des 200 et quelques sociétés qui fleurissent à Genève et qui ne touchent aucune subvention, car la conception, c'est qu'une société savante, pour être libre, pour être indépendante, ne doit toucher aucune subvention, être affranchie de l'État et lui ôter, à l'époque déjà, l'oreiller de paresse des subventions. Évidemment, aujourd'hui, les temps ont changé et plus personne ne songe à pouvoir faire un certain nombre d'activités sans le mécénat, le sponsoring ou les subventions officielles. D'ailleurs, ce débat a entraîné une diminution de la subvention de l'Institut National Genevois au printemps 1863. Alors, le Journal de Genève, le 30 octobre, donc le lendemain de la conférence de Genève, publie un article très élogieux. Depuis lundi dernier, c'était le 26, aujourd'hui c'est un samedi, mais en 63 c'était un lundi. Nous avons dans notre ville un grand nombre de sommités médicales militaires de l'Europe, réunies à Genève à l'occasion de cette conférence internationale que nous avions annoncée il y a quelques jours. Ils ont dû l'annoncer de façon microscopique parce que je ne l'ai pas retrouvé en octobre. Ça y est certainement, mais ça doit être une ligne dans un tout petit caractère parce qu'il y a 2 polices utilisées dans ces journaux. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire quand ils l'ont annoncé. Nos lecteurs se souviennent que le dernier congrès de statistiques à Berlin avait fait un accueil très favorable à l'idée émise par notre compatriote M. Henri Dunant de former des associations dans le but de préparer des organisations de secours aux soldats tombés sur les champs de bataille afin de suppléer à l'insuffisante force de ressources du service militaire dans ces terribles boucheries que nous devons au perfectionnement des armes modernes. Au-delà de la boursouflure du style, ce qu'il faut reconnaître et remarquer, c'est qu'on souligne que c'est dû à Henri Dunant que cette conférence s'est regardée. Puis on rappelle que suite au fait qu'à Berlin, ça n'a pas pu se faire comme on le voulait, on a décidé de faire une conférence internationale à Genève sous la direction d'un comité constitué par la Société genevoise d'utilité publique et sous la présidence de Monsieur le Général Dufour. Que les délégués ont été envoyés soit par les ministres de la guerre, soit par des souverains, et qu'ils ont assisté depuis 3 jours à ces délibérations, ce qui montre combien on prend au sérieux cette participation. Et on revient sur la généreuse tâche que l'initiative de M. Henri Dunant avait cherché à assigner à la philanthropie moderne et combien dans toutes les sphères officielles, pour le gouvernement genevois, on a voulu témoigner de sympathie pour cette entreprise. On donne la liste complète de tous les participants, 36, et on souligne que la présidence a été assumée tour à tour par Dufour, par Moigné et par le prince de Reuss. Alors, dans ce beau compte-rendu du 30 octobre 1863, il ne manque qu'une chose, mais qui est pour nous l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant ces 4 jours? Où sont les 10 propositions, les 10 résolutions et les 4 vœux? Rien. Ça n'est que le lendemain. C'est vrai que les journaux ont peu de place, mais on aurait peut-être fait l'inverse aujourd'hui. Ça n'est que le lendemain, le 31 octobre, que le journal de Genève publie les 10 articles résolutions que vous connaissez bien. Alors, est-ce qu'il y a... C'est donc peut-être, on pouvait le penser, le journal de Genève qui est le premier à publier ces 10 résolutions. Eh bien non, mesdames et messieurs, eh bien non. Il ne les a donc publiées que le 31 octobre, mais dès le 30, le lendemain de la conférence, un organe de presse genevois informait ses lecteurs d'une manière très sobre. On ne parlait plus d'Henri Dunant, on ne parlait pas des princes qui avaient assisté à la conférence, mais qui disait simplement « Une conférence internationale s'est tenue à Genève, elle a déterminé et vous aviez les 10 résolutions et les 4 vœux intégralement publiés. » Et cet organe, je vous le donne en 1000, c'est la Nation Suisse, c'est-à-dire l'organe radical qui ne cessait d'attaquer le journal de Genève et les conservateurs. Donc, ils ont d'abord été bien informés. Là, on peut penser que c'est Henri Dunant lui-même qui a tenu la plume, mais qui n'a pas hésité, pour son œuvre, à aller chez les radicaux donner son article, enfin, son communiqué de presse, dirions-nous aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal, et que dans le journal La Nation, dans lequel il est indiscutable que James Fazi joue encore un rôle important, c'est un organe de presse radical pur et dur, eh bien, un rédacteur, et peut-être même Fazi, a jugé suffisamment intéressante la chose pour le publier. Alors, sans éloge, évidemment, de Dunant, mais intégralement le 30 octobre, c'est-à-dire avec 24 heures d'avance sur l'organe des conservateurs. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette magnifique, pour ces magnifiques exposés. Réservez les questions après la prochaine conférence. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de présenter les prochains conférenciers, Roger Durand, qui est l'âme et le corps de toutes nos activités dans ce domaine. Merci, Roger.
Alors, je tiens tout d'abord à remercier mon ami Bernard Lescaze, auquel j'ai téléphoné il y a 10 petits jours. Je dois dire très embarrassé parce que le conférencier, même les 2 conférenciers successifs auxquels nous avions pensé et que nous avions sollicité, n'ont pas pu, les 2 pour des raisons de santé d'ailleurs, présenter l'exposé brillant que Bernard vous a fait. Alors, ils auraient été différents, ils auraient été excellents aussi, mais celui de Bernard est magnifique comme chaque fois qu'il prend la parole, et je le félicite aussi pour avoir trouvé des informations nouvelles, pittoresques et de substance, parce que notamment les contacts entre le comité international, surtout du Nord à ce moment-là, mais Moigné aussi, et le Parti radical étaient extrêmement tendus. Et j'ai fait une petite étude pour montrer à quel point l'absence du gouvernement genevois, des autorités, était surprenante, en tout cas pour la conférence d'octobre, celle qui nous intéresse, mais aussi pour le congrès diplomatique. En fait, on a eu là une manifestation tout à fait privée en octobre. Alors donc, cette conférence d'octobre, il importe juste de la resituer par rapport aux 4 moments décisifs de la naissance du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Je vais très vite parce que c'est archi connu. Nous rappelons qu'en novembre 1862, au début du mois, Henri Dunant publie le Souvenir de Solferino. Nous en avons parlé il y a exactement une année à l'Institut National Genevois d'ailleurs. Alors peut-être que les mânes de Dunant, de Moigné ont dû se retourner dans leur tombe à ce moment-là. Mais c'est une excellente collaboration que nous avons eue, notamment avec M. Pierre Kuntz et l'Institut. Puis, le 9 février 1863, 6 petits mois plus tard, nous avons la fondation du Comité international de la Croix-Rouge au casino de Saint-Pierre, qui se trouve derrière la cathédrale, rue de l'Évêché. C'était le lieu habituel des réunions de la Société genevoise d'utilité publique. Donc, on peut vraiment dire que le berceau du comité international, ce n'est pas ici, contrairement à ce qui est indiqué sur l'inscription qui se trouve de l'autre côté de ce mur, mais c'est vraiment l'évêché. Mais c'est pas grave du tout. La troisième étape, c'est donc de nouveau 6 mois plus tard, les 26 au 29 octobre 1863, la conférence constitutive, dont Bernard a rappelé que les résolutions, les 10 résolutions et les vœux ont été véritablement les fondements de la problématique qui va amener le 22 août 1864 à la signature de la fameuse Convention de Genève. Donc nous avons 4 moments décisifs et 1 des 4 moments s'est déroulé ici, jour pour jour, comme l'a rappelé M. Boichard. Et je tiens aussi à remercier l'hospitalité de la Société des Arts qui nous a spécialement ouvert le salon ce matin. Et je tiens aussi à souligner que régulièrement, nous avons des visiteurs étrangers, qu'ils viennent d'Allemagne, de France, d'Algérie, d'Italie. Et que chaque fois que nous demandons à la Société des Arts de pouvoir faire visiter ces lieux historiques, nous avons toujours un accueil et un soutien très positif. Je dois dire que c'est pour nous un grand point de satisfaction. Merci à la Société des Arts. Donc, nous allons parler plus spécialement, naturellement maintenant, des événements des 26 au 29 octobre. J'aimerais juste mentionner que nos sources sont relativement maigres. Bernard l'a signalé, la presse genevoise ne donne pas un compte-rendu jour pour jour de ce qui se passe. Nous n'avons pas beaucoup de correspondance, je crois même pouvoir dire aucune correspondance, des fondateurs entre eux, à ce moment-là ou sur cet événement. Et pour l'instant, la seule source que nous ayons, c'est le compte-rendu de la conférence, le compte-rendu de la conférence internationale, et qui est très complet, puisqu'il a 115 pages, n'est-ce pas ? Donc c'est un document très détaillé, mais c'est un document unilatéral, puisqu'il émane du comité lui-même, j'y reviendrai. Alors, si l'un d'entre vous entend parler d'autres sources, naturellement, que nous serions très heureux. Alors, j'aimerais juste retracer la genèse de cette conférence constitutive, parce qu'elle n'est pas née comme ça de rien du tout. Le comité international se réunit le 17 février 1863. On ne sait pas où. Mais à ce moment-là, on a les 5 membres, on pourrait dire, définitifs. Et ils résument leur mandat, c'est préparer un mémoire à l'intention du Congrès international de bienfaisance qui doit avoir lieu au début septembre 1963, je cite, « sur la création en temps de paix de sociétés de secours pour les blessés militaires et l'adjonction aux armées belligérantes d'un corps d'infirmiers volontaires ». Donc le but à cette époque-là, c'est véritablement d'organiser des sociétés de secours. Nous pouvons relever que le moyen d'atteindre ce but, c'est, on pourrait dire, l'international de la bienfaisance. Le congrès de Berlin devait être le 4e des congrès internationaux de bienfaisance. Gustave Moynier avait participé à 2, sinon 3 des précédents congrès de bienfaisance. Et là, on voit la patte de Moynier qui dit « c'est par la bienfaisance internationale qu'on va pouvoir créer nos sociétés de secours ». Comme Dunant n'avait pas de plan précis, on suit cette stratégie. Donc, le but des sociétés de secours, le moyen, les sociétés de l'international des bienfaisances. Et vous verrez que ni l'un ni l'autre, finalement, n'aboutiront et qu'on aura d'autres buts et d'autres moyens. Henri Dunant est chargé de rédiger ce mémoire et on décide aussi de lancer une campagne de presse. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le 14 août 1863, donc avant le congrès, paraît dans le journal de Genève un long article où on annonce déjà les projets du comité international. Et puis, le 25 août, le comité se réunit, catastrophe, le congrès de bienfaisance de Berlin est annulé et, élément assez significatif, il ne sera pas renouvelé. Il n'y a plus eu de congrès international de bienfaisance, alors que Valérie Lathion l'a souligné de façon magistrale en février, les congrès internationaux se multiplient dès les années 60 de façon extraordinaire, et on peut se demander pourquoi la bienfaisance internationale ne peut plus exister, si l'on peut dire. Toujours est-il que devant cet échec de ce vecteur, Moynier et Dunant, qui s'étaient concertés auparavant, proposent, je cite, « le seul moyen de faire marcher l'affaire est de convoquer une conférence internationale à Genève ». Alors pour nous, cette décision, elle est tout à fait capitale, Bernard l'a aussi souligné, c'est que grâce à cette décision, la Croix-Rouge est fondée à Genève, elle n'est pas fondée à Berlin ou à un autre endroit. Un autre élément que j'ai déjà esquissé et que j'aimerais vraiment qu'on approfondisse, c'est à Genève, en 1863, combien y a-t-il eu de conférences ou de congrès internationaux ? Et j'ai l'impression qu'il n'y en a eu quasi aucun. J'ai retrouvé que l'Alliance évangélique s'est réunie à Genève en 61. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui était le secrétaire de l'Alliance évangélique ? Un certain Henri Dunant. Ce n'est pas la même chose que la Société évangélique. Hein. La Société évangélique, elle est genevoise, alors que l'Alliance évangélique, c'est justement une sorte d'organisation internationale des différentes sociétés évangéliques qui sont réparties dans toute l'Europe. Mais pour nous, ce précédent a peu été étudié. Or, j'ai un peu l'impression que pour Dunant, c'était une sorte de répétition générale. Et que lui savait comment on organisait un congrès international. Alors que Moigné avait participé à des congrès internationaux. Quant à Dufour et les deux médecins, on ne sait pas. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a une sorte de baptême du feu. Or, je l'ai dit, je crois, il y a quelques jours, aujourd'hui, on a entre 7 et 9 000 conférences internationales à Genève chaque année. C'est donc quelque chose de complètement phénoménal, et on peut penser que cette conférence-ci, c'est une grande première. Et donc, le comité mandate Dunant et Moigné pour rédiger une circulaire de convocation. Dunant a déjà rédigé le projet de concordat, on le discute en séance, toujours ce 25 août, et on adopte un projet de concordat qui va être envoyé à tout le monde. Et je vous rappelle que nous sommes le 25 août et le 1er septembre, donc une petite semaine après, est expédiée la fameuse circulaire de Genève, qui est donc la convocation, avec le projet de concordat et avec 5 ou 6 pages d'extraits de la presse, du journal de Genève, du journal des débats, montrant les mérites de ce projet. Alors, pour nous, ce qui est déjà intéressant, c'est que ces hommes vont très vite, n'est-ce pas? Puisque vous avez un comité qui se réunit le 25 août, et que moins d'une semaine après, vous avez un grand envoi d'une immense importance qui est assumé, et selon toute vraisemblance, c'est Dunant qui tient le secrétariat, puisque nous avons conservé, par exemple, les listes des destinataires, certaines listes de destinataires de sa blanche main. Mais il a aussi un ou deux secrétaires. Et cette fameuse circulaire du 1er septembre donc, invite les gouvernements, les autorités militaires à envoyer des délégués à Genève le 26 octobre pour discuter du projet de créer des sociétés de secours, etc. etc. Un élément intéressant, c'est que, comme l'a aussi relevé Bernard, on parle du désir formulé par M. Henri Dunant. On parle du souvenir de Solferino, on ne parle de personne d'autre. Mais la lettre est signée par les 5 fondateurs, le général Dufour en tête. Et Moigné apparaît comme président de la Société Genevoise d'Utilité Publique. Il n'apparaît pas comme vice-président du comité. Et Dunant apparaît comme secrétaire. Autre détail intéressant, c'est que les délégués sont convoqués au casino de Saint-Pierre. Et pas du tout ici. Ça veut dire que la négociation pour le palais de l'Athénée a dû se passer au courant du mois de septembre. Donc là aussi, il y a eu une décision d'urgence. Probablement que le casino n'était pas assez... était beaucoup moins prestigieux qu'ici. Et puis, il y a un autre élément qu'il vaut la peine de souligner, c'est que dans la famille Hénard-Lulin, on est membre de l'Église du Réveil. Anna Lulin, donc la femme, la veuve du mécène, en fait partie, mais Charles Hénard, donc un des neveux, est un fer de lance du réveil. Donc on peut penser que là aussi, il y a non seulement des affinités politiques, mais il y a aussi des affinités religieuses qui font que c'est tout à fait naturel qu'on se réunisse ici, encore que il y a aussi... un sujet d'étonnement qui nous réjouit quant à la capacité de décision de la vieille Anna Hénard-Lulin, c'est qu'elle accepte qu'on invite des diplomates dans un palais qui n'est pas fini, hein, et dont l'autre moitié n'était pas du tout finie. Et au niveau de l'aménagement de cette salle, est-ce qu'ils avaient déjà eu le temps de planter tous leurs tableaux? Je ne suis pas du tout sûr. Et je souligne cet élément pour montrer à quel point ces gens prenaient des décisions, prenaient des risques, acceptaient des solutions pas parfaites parce qu'ils les jugeaient meilleures qu'une autre. Et donc, nous avons cette magnifique convocation qui va être renforcée, vous le savez, par la fameuse expédition d'Henri Dunant à Berlin. Je ne pense pas qu'il avait déjà acheté son billet de train, mais il apprend donc qu'il n'y a pas de congrès de bienfaisance, mais qu'il y a un congrès de statistiques. qui va se terminer le 12 septembre. Donc, il prend le train pour Berlin, poussé probablement par son ami Basting, le médecin d'une troupe d'élite de l'armée des Pays-Bas, qui fait aussi partie, je n'ai pas besoin de vous le dire, du réveil, et qui a traduit le souvenir de Solferino en néerlandais. Donc c'est aussi un homme exactement de la même idéologie que Dunant, et aussi de la même efficacité, puisqu'il arrive à traduire ça à toute vitesse. Et puis, M. Leo von Bergen nous a prouvé que ce souvenir de Solferino a atterri sur la table du roi des Pays-Bas, et que c'est le roi des Pays-Bas qui va prendre la décision de fonder une société de secours. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que des décisions ont été prises au plus haut niveau. Je vous rappelle qu'en Europe, il n'y a qu'une seule république, c'est la Suisse. Tout le reste des pays, ce sont des têtes couronnées. Alors, Dunant débarque à Berlin, rien n'est prévu par rapport à créer des sociétés de secours, etc., etc. C'est la statistique, c'est un congrès de statistique. Heureusement, il y a une quatrième section où on compare la mortalité des armées et puis des populations civiles. Basting est président, ou en tout cas se fait confier la rédaction du rapport. Est-ce que c'est Basting, est-ce que c'est Dunant qui plaide? On ne sait pas. Toujours est-il que Dunant arrive à entrer en contact avec des militaires, des diplomates, des médecins militaires, et apparemment, il a un sens des relations publiques, un sens du contact qui font mouche. Et vous le savez, il constate une évidence avec Basting, c'est que la création des sociétés de secours, ça n'intéresse pas beaucoup les militaires. Que la présence de ces sociétés de secours sur les zones de combat ou tout proche des zones de combat, ça ne plaît pas du tout aux militaires. En revanche, ce qui plaît aux militaires, et notamment aux chirurgiens de guerre, c'est l'idée qu'on les protège. Et alors, Dunant avait déjà esquissé le problème de la neutralisation du personnel sanitaire, puisqu'il en avait fait l'expérience en Italie en 1859. Et il s'était déjà heurté au refus de ses quatre collègues qui voulaient vraiment cibler leur effort sur les sociétés de secours. Alors Dunant prend sa plume avec Basting et il crée ce qu'on appelle la circulaire de Berlin, datée du 15 septembre. Le congrès finit le 12 et la circulaire est imprimée le 15, donc de nouveau une efficacité fantastique. Et là, par des tours de passe-passe intellectuels qui confinent avec la malhonnêteté intellectuelle, on est forcé de le dire, il donne l'impression au lecteur de cette circulaire de deux pages, imprimée sur un très beau papier, belle typographie, etc., que le congrès de statistique, le prince d'Eulenburg, qui en était le président, ont approuvé les projets des Genevois. C'est pas possible de lire autre chose que cela. Or, aucune décision n'a été prise lors du congrès de statistique, d'après les procès-verbaux que nous avons pu lire. Donc là, il y a un tour de passe-passe incroyable, c'est le premier tour de passe-passe, puis le second tour de passe-passe, c'est que Dunant signe secrétaire du comité international, en haut de la convocation, c'est bien comité international, etc., etc., et il envoie ça à tout le monde. Et il a les adresses des destinataires, puisque c'est lui qui s'est occupé de la première expédition. Et bon, il en envoie aussi une à ses amis genevois. Je pense qu'il y a dû y avoir quelques moments de mécontentement. C'est la fameuse circulaire de Berlin. Et ensuite, vous le savez, sur le chemin du retour, il va réussir une tournée des princes et des rois du monde germanique absolument époustouflante. Chaque fois, il arrive à se faire recevoir, chaque fois, il peut plaider. Il est reçu par le roi de Saxe, il est reçu par l'archiduc Rainier, qui est régent de l'Empire austro-hongrois à ce moment-là. Parce que l'empereur François-Joseph n'est pas là. Bref, il fait une tournée simplement fabuleuse et improvisée, probablement préparée par les contacts excellents qu'il a eus avec les diplomates à Berlin. Il arrive à Genève peu avant le 20 octobre. Une séance du comité a lieu ce jour-là. J'aurais aimé y assister. Je ne peux pas vous dire. Parce que il a dû se faire enguirlander comme c'est pas possible. Et enfin, on passe sous silence, et bien entendu que lorsque le congrès, enfin la conférence internationale sera ouverte, on ne mentionne pas la circulaire de Berlin. Et on ne va parler que de la circulaire du 1er septembre, donc des sociétés de secours. Et on ne va pas parler de la neutralisation du corps sanitaire. Alors, je reviens maintenant à la conférence elle-même. Bernard vient retracer le cadre général. Je ne vais pas y revenir. Juste pour souligner quand même que ces messieurs savent recevoir. Et nous savons, par exemple, que le soir du 25, donc la veille des travaux, Moynier reçoit chez lui les diplomates. Et c'est amusant de savoir, ce sera peut-être une nouvelle plaque commémorative, il les reçoit à la rue Neuve du Manège, au numéro 3. C'est une maison que les Moynier possèdent, c'est maintenant la rue Colladon, qui est juste à côté, à trois pas. Alors là, on sait qu'il y a une soirée d'accueil. Je n'ai pas encore réussi à reconstituer les autres joyeusetés que nos grands bourgeois avaient prévues pour les diplomates, mais certainement qu'il y a eu quelque chose. Je sais que Dunant les reçoit aussi chez lui, et chez lui, c'est où? C'est la maison qu'on appelle la maison Dunant maintenant, qui se trouve juste à côté de la maison Tavel, et un petit peu, on pensait à Peter, en face des canons, n'est-ce pas? Et c'est donc juste à côté, disons qu'il y a une proximité physique extrêmement dense. Alors, nous allons commencer par les excuser. Donc, nous nous rappelons que nous avons 5 privés, dont un seul a une surface internationale, le général Dufour. Les autres, ce sont des... Oui, ce sont de gentils bourgeois ou grands bourgeois. Nous avons vu que Appia appartient quand même à des cercles internationaux importants, et qu'il a des contacts souvent à un très haut niveau. Et par exemple, il a soigné un des fils dévoyé de Lord Shaftesbury. Je me réjouis de trouver un historien anglais qui me dise quelle est l'importance de ce Lord Shaftesbury, mais j'ai l'impression que c'est un personnage très important en Grande-Bretagne à ce moment-là, et comme par hasard, il fait partie des excusés. Donc, quand je dis « fait partie des excusés », il fait partie de ceux qui ont écrit un mot en disant qu'ils soutenaient le projet, mais que malheureusement, ils ne pouvaient pas venir. Vous me direz que ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est quand même très précieux pour nos jeunes voix. Alors, on a vraiment ces excusés prestigieux sont importants. On commence par le roi des Belges, tout simplement. On a le grand-duc de Mecklembourg, on a les gouvernements du Danemark, du Portugal, de l'Oldenbourg. On a le baron von Weber, qui est le grand chambellan du royaume de Saxe. On a un docteur Comizetti, qui est du conseil supérieur militaire de santé du royaume du Piémont. On a véritablement des personnalités de premier plan, le prince Demidov, qui s'était fait connaître pour avoir s'être occupé de prisonniers russes pendant la guerre de Crimée, mais depuis la France, etc. On a le ministre de la guerre de Russie, Miloutine. Donc, parmi les excusés déjà, on peut dire qu'il y a une brochette assez prestigieuse. Mais surtout, il y a une participation exceptionnelle, puisque nous avons 16 pays qui sont représentés. La plupart ne sont pas mandatés avec les pleins pouvoirs pour engager leur gouvernement. La plupart, c'est audiendum et referendum, donc pour prendre connaissance et puis transmettre un rapport. Mais ils sont là. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et ce qui nous frappe, c'est que la présence du monde germanique est énorme. Hein. On a l'Autriche, Bade, Bavière, Hanovre, Hesse, Prusse, Saxe, Wurtemberg, presque la moitié de l'effectif est germanique. Et comme par hasard, ce sont presque tous des pays où Dunant a passé en septembre, les 15 jours qui précèdent. On a la France, on a la Grande-Bretagne, c'est aussi un petit miracle. parce que quand on sait l'autorité de Florence Nightingale et les misères qu'elle a faites en désavouant très franchement, etc., on ne peut que se réjouir de la présence de la Grande-Bretagne, qui était une puissance mondiale déjà à l'époque. On a la Russie. Bref, on a une belle brochette de représentants. Alors, je me suis intéressé aux... donc, on a 16 pays. On a l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, la branche allemande, la branche prussienne, qui vient de revenir en puissance, puisqu'elle avait été dissoute au moment des guerres napoléoniennes. Et puis, on a trois sociétés d'utilité publique, la genevoise, la vaudoise et la société des sciences sociales de Neuchâtel. C'est la même chose. Au niveau des professions, voilà, c'est assez intéressant. Parce que nous avons 5 militaires pur sucre. Nous avons 5 diplomates, nous avons 7 philanthropes et nous avons 19 médecins militaires. 19 médecins militaires. Donc, sur les 36 participants, nous avons une large majorité des médecins militaires. Et pour nous, c'est particulièrement intéressant parce que ça nous montre que les bases du mouvement international ont été posées par des médecins et pas par des diplomates, pas par des juristes, comme aujourd'hui le monde Croix-Rouge est dominé. Le déroulement de la conférence, je vais très vite parce que malheureusement le temps me manque, c'est Dufour qui préside. Il préside pas tout à fait, il introduit les débats. Et il commence par un discours, on pourrait dire, minimum, en disant c'est un beau projet, mais nous savons qu'il est irréalisable, et rien que d'en parler, c'est bien. Je pense que Dunant ne devait pas être hyper enchanté, au point de vue stratégique, c'était très malin. Et puis, il transmet la vice-présidence au prince de Reuss, qui je pense était la personnalité la plus élevée de toute l'Assemblée, et d'ailleurs le prince de Reuss, qui est donc le représentant de l'ordre des fameux Johanniter, donc les Saint-Jean de Jérusalem, prendra peu la parole et n'aura pas un rôle décisif, mais disons qu'il apporte la caution d'un ordre tout à fait considérable. Et puis, Moigné accède à la présidence sur proposition de Dufour, et il me semble que Moigné va présider les 4 jours. Et c'est important de savoir qu'on avait prévu 3 jours, 26, 27, 28, et qu'ils ont dû prolonger d'un jour. Ce qui montre que les débats ont été nourris et que ce n'est pas allé tout seul. Alors, si on s'intéresse maintenant aux intervenants, on voit par exemple que celui qu'on attendrait le plus ne va quasiment pas prendre la parole. C'est Henri Dunant. Alors, il est secrétaire. Alors, il lit les présents, les absents. Il lit les lettres de certains. Ça a dû être assez long parce que, par exemple, la lettre du russe Demidov, elle fait quasiment 2 pages. Donc, mais il lit tout parce que c'est un... disons que ça va lui plaire beaucoup à ses collègues, puisque Demidov dit « C'est très beau vos sociétés de secours pour les militaires blessés, mais ceux dont on doit s'occuper, c'est les prisonniers de guerre. Hein » Alors, Dunant, il ne se gêne pas de lire aussi cet élément-là. Mais... ensuite, il lit les participants, alors c'est son tableau de chasse, de pouvoir énumérer tous ces médecins militaires en chef, ces hommes qui appartiennent à des états-majors ou ces diplomates. Et ensuite, il lit le projet de concordat qu'ils avaient élaboré et qui va servir pendant les 3 jours et demi de débat. Ensuite, on a un tour de pré-consultation. C'est-à-dire que, avant d'entrer dans la discussion du document, on a des sortes de déclarations de principe, des positions générales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, hormis le prince de Reuss et puis le major Broddruck, on n'a que des médecins militaires qui parlent. C'est Leffler, c'est Landa, c'est Basting, c'est Hahn, c'est Rutherford, c'est Dompierre, Inger, Boudier. Alors, certains parlent et disent des choses pas très agréables. Par exemple, je cite De Préval, il nous dit « Il ne paraît pas admissible du moins au point de vue de l'organisation de l'armée française, qu'un comité composé de personnes étrangères à l'armée puisse s'immiscer dans le service de santé militaire. Et je ne vais pas citer toutes les phrases et de Préval ou de Boudier qui tirent à boulet rouge sur le projet. Et qui ont, Boudier a des propos tout à fait alambiqués. Mais oui, quel beau projet, mais oui, il faut faire quelque chose. Et puis chaque fois, il termine en assassinant le projet. L'intervention, par exemple, de Rutherford ne va pas vous surprendre. Il dit, nous, dans l'armée britannique, on est en ordre. Hein, ça marche très bien, tout le monde est bien soigné, on fait nos petits services à nous et on ne va surtout pas se mettre dans un dispositif international. Vous n'êtes pas surpris de cela. Le représentant de l'Espagne, Landa, dont on a déjà parlé, alors lui, il est interminable, il fait un rapport de 8 pages pour montrer tout ce que l'armée espagnole a réussi de bien, soit dans ses guerres locales, soit dans des guerres coloniales déjà. Et là, ce sera aussi assez intéressant de comparer ça avec la réalité. Quant à Boudier, pour lui, il pense qu'il n'y a que deux moyens intéressants de secourir les militaires blessés, c'est d'avoir beaucoup de mulets, et puis d'organiser une rapide mobilisation des mulets, et puis de faire appel à la population. Donc exactement le contraire de ce que les Genevois proposent. Le débat est violent, on a par exemple une prise de bec entre Boudier et Monnoir, et là, le médecin Monnoir va jouer un rôle, on le sait, mais c'est bon de le répéter, déterminant, parce que après la tirade de Boudier, tout le monde devait se dire, oulala, c'est fichu, surtout qu'il représentait le très puissant Second Empire. Alors, par exemple, Boudier dit, jusqu'à quand durera la mission de vos volontaires? Jusqu'à la paix? Mais la guerre peut être fort longue. Tous les généraux ne peuvent pas dire comme César et Napoléon III, Veni, Viti, Vici. Et Monnoir le rembarque en disant, l'empereur Napoléon III peut avoir dit Veni, Viti, Vici, mais les secours pour les malheureux blessés ne sont pas venus aussi vite que la victoire. Et l'autre opposant à Boudier, c'est Le Flair. Et Le Flair reprend Bouvier, quand Boudier dit il n'y a pas eu d'insuffisance du service sanitaire. Le Flair reprend la parole en disant « Il y a eu une insuffisance pendant la guerre de 1859 ». Donc, ces messieurs ne s'épargnent pas et ils ont des idées tout à fait tranchées. Après 3 jours et demi, on examine le projet des Genevois article par article, ligne par ligne, et on est surpris de voir qu'il y a entrée en matière, et que finalement, la substance proposée n'est pas beaucoup changée. Et les résolutions, qui étaient un projet de concordat, alors on passe à des résolutions, pour éviter qu'un concordat donne l'impression qu'on était d'accord. Mais enfin, on sauve l'essentiel. On a donc 10 résolutions sur la création des comités pour créer des sociétés de secours, pour l'emblème, pour le rôle du comité international, pour la possibilité de congrès internationaux entre ces sociétés de secours. Mais on reste dans les sociétés de secours. Et c'est là qu'intervient un autre médecin décisif, c'est, vous le savez, Bastigne. Bastigne qui prend la parole, et j'en parlerai tout à l'heure, il prend la parole à la fin du congrès en disant « mais nous ne sommes pas venus pour ça ». Nous sommes venus pour la neutralisation des services sanitaires. Alors, est-ce qu'il a été chauffé par Dunant la veille au soir en disant « maintenant tu y vas », etc. C'est étonnant de voir que Dunant ne prend jamais la parole, mais on verra par rapport à la rédaction du rapport, il y a peut-être une explication. Toujours est-il que Bastigne reprend l'idée de la neutralisation et celle-ci va être introduite dans les vœux, hein, puisqu'on aura 3 vœux principaux, que les gouvernements protègent ces comités de secours, qu'un emblème commun soit adopté, c'est curieux, dans les résolutions et dans les vœux, on parle 2 fois de l'emblème, et puis surtout la neutralisation. Et cette neutralisation, elle est maximale à ce moment-là, c'est un vœu, hein, mais c'est les services de santé, donc des armées en campagne, mais aussi des volontaires, mais aussi des blessés, mais aussi la population qui vient en aide pour soigner les blessés. Donc c'est vraiment le programme maximum qui est adopté comme vœu. Donc on peut dire que ces débats ont été intenses et qu'ils répondent finalement aux attentes des Genevois. Je me suis juste amusé à noter le nombre d'interventions des participants. Alors, vous ne serez pas étonné que Moynier apparaît 26 fois dans une intervention et une fois avec une intervention majeure. J'appelle une intervention majeure un développement d'une ou deux pages, etc. Mais le second, c'est Le Flair. Et Le Flair, il a 19 interventions, dont 3, plus 3 majeures. Le suivant, c'est Basting, 18 interventions et 3 majeures aussi. Le suivant, c'est Landa, avec 14 interventions, plus une majeure de 8 pages. Lire 8 pages, vous imaginez le temps qu'il a pris. Oh là là, j'espère qu'il avait un bon accent français. Boudier, il a 8 interventions, pardon, 12 interventions, plus une majeure. Ensuite, c'est Depréval. Et Depréval, c'est le premier non-médecin. Donc, vous voyez que les médecins ont joué là un rôle déterminant. Ensuite, on a deux diplomates ou militaires. Un militaire, c'est Depréval. Et puis, un diplomate, c'est Brodruc. De Préval, donc complètement hostile, c'est 11 interventions et une majeure, mais Brodruc, c'est 10 interventions et une majeure, mais Brodruc est pour le projet. Donc, et puis après, de nouveau, on a Monnoir et Appia, donc qui prennent beaucoup la parole. Monnoir 9 fois, donc une déterminante, pour, clouer l'argumentation de Boudier, et puis Appia, à 8 interventions plus une majeure, on l'a vu, l'intervention majeure, c'est alors que le général Dufour, qui semble-t-il, je pense qu'il était un petit peu vieux, ou il s'était assoupi, il s'était prononcé contre l'uniforme. Hein, et il avait le projet dans le concordat, c'était ou un uniforme ou un emblème. Et il dit, il ne parle que de l'uniforme, il ne parle pas de l'emblème. Et alors, Appia revient en disant non, il faut un signe commun. Donc, aussi une intervention déterminante. Donc, nous voyons que les médecins, par leur nombre, par la diversité des pays, mais aussi par leurs interventions, ont joué des rôles déterminants, les uns hostiles, les autres favorables, et qu'on peut vraiment dire, sans exagérer, que le démarrage international du mouvement de la Croix-Rouge a été réalisée en grande partie grâce à l'intervention des médecins, ce qui, je le dirais en conclusion hâtive, est assez surprenant par rapport à aujourd'hui où vous pouvez chercher des médecins dans les tout hauts niveaux de la Croix-Rouge internationale, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'au CICR, il y a eu un médecin président, une fois. Et à la Fédération internationale, il n'y a pas beaucoup de médecins non plus, tout en haut. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'on peut vraiment dire qu'ils sont fondateurs du mouvement, puis que maintenant, le mouvement, à peu près, leur a échappé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Roger. Je pense qu'on a le temps, quelques minutes, pas beaucoup, mais pour des questions et des commentaires sur ces excellentes contributions à notre partie. Qui veut prendre la parole?
J'ai juste une question, mais qui est très, très mineure. Est-ce que les débats se passaient qu'en français ou il y avait des traductions?
Selon toute vraisemblance, en français. Je ne sais pas, mais en français, les débats.
Oui, certainement.
Français.
C'est la langue diplomatique, c'est la langue que tout le monde parle. Malgré la grande présence germanique, c'est en français. Comme le compte rendu.
Oui, le compte rendu, oui, juste, j'ai oublié de dire.
C'est passionnant.
C'est un très beau compte rendu. Et on n'a pas réussi à établir de façon déterminante qui l'avait rédigé. C'est probablement une œuvre commune entre Moigné et Dunant, mais c'est quand même assez troublant qu'on n'entende jamais Dunant intervenir dans les débats. Bon, lui devait prendre des notes. Et puis, quand même, les dernières lignes du compte-rendu, c'est le secrétaire de la conférence, J. Pointerait Henri Dunant, Genève, octobre 1863. C'est étonnant. Oui, François.
Alors moi, j'ai une explication très claire. Le secrétaire d'une conférence internationale n'intervient pas dans les débats. Voilà la ligne. S'il intervient sans être sollicité, les autres délégués vont réagir. Monsieur, vous êtes secrétaire, vous n'avez pas à intervenir dans les débats. Il le sait très bien. En revanche, le secrétaire, il joue un rôle déterminant en coulisses. C'est lui qui prépare les projets. Et même si les projets reflètent les débats, ben dans un débat, il se dit 1000 choses. Qu'est-ce qu'on retient pas dans le projet? Et alors, est-ce qu'on a assigné ce rôle à Dunant parce qu'on savait qu'il était bon en coulisses et qu'il influençait la chose de cette manière-là? Par exemple, le titre de la conférence, on retrouve un projet manuscrit du Nant, co-signé par les deux délégués français, donc on voit bien qu'il y a une négociation en coulisses pour savoir comment on va baptiser le bébé, et puis il y avait une résistance des Français qui ne voulaient pas entendre parler de l'insuffisance du service de santé militaire en campagne, parce que c'était très humiliant pour ce qui s'était passé à Solferino. Ou bien alors, calcul inverse, et moi j'ai quand même participé à l'organisation face à la grande conférence, une façon de clouer une bête à quelqu'un, c'est quoi? Ben, on est au pêcheur. Quand vous lisez les actes, vous dites où, la machin, il est vice-président, c'est bien, etc. 9 fois sur 10, celui qui est nommé vice-président, c'est uniquement une façon de clouer une bête. Il est au pêcheur, si on est au pêcheur, on les nomme vice-président, il est au pêcheur, et puis ça écrit l'intérêt. Mais donc, le fait qu'il n'intervient pas dans le débat, pour moi, c'est tout à fait transparent. C'est lié au fait de sa fonction de secrétaire, ce qui, dans mon esprit, augmente pas mal l'idée qu'il doit avoir utilisé quelqu'un, en l'occurrence Bastine, pour faire réémerger les propositions de Berlin. En tout cas, je pense que Moigné, Dufour, Mouroir ont dû le penser. Puis sur la réaction des 4 collègues à la circulaire de là, on a un billet aux archives aussi. C'est bien un petit billet manuscrit de Mouroir disant « Je viens de recevoir une circulaire qui modifie l'agenda de la conférence et je me réserve de protester à la prochaine occasion. » Donc on voit bien que, en tout cas, Mouroir, le truc lui est resté en travers la campagne. Mais c'est la circulaire de Berlin. Elle est non seulement au nom du comité, supplément à la circulaire du 1er septembre, mais en plus de libérer si le comité de Genève propose, le comité de Genève suggère. Donc évidemment, les 4 collègues étaient fous. Merci.
D'autres questions, commentaires? Moi, j'en ai une avant de terminer, si vous êtes d'accord. Bernard aussi.
Ouais, oui, après. Précis.
Oui, allez-y. Allez-y, non? Ah non, bon, moi j'étais très intéressé, justement, Bernard, par ta lecture du journal La Nation, quoi, dans un article que tu attribues probablement à Dunant lui-même, qui a rédigé cela. Alors, dans cet article, il y a une chose intéressante de laquelle on n'a pas beaucoup parlé. C'est que cet article attribue la cause, une des causes majeures de la création de l'humanitaire, au développement technologique des armes, oui, qui produisent beaucoup plus de dégâts qu'auparavant, et qui provoquent l'insuffisance du service sanitaire. Ouais. Et comment étudier ces phénomènes-là? Par les statistiques, d'où l'importance du travail statistique, et d'où on peut expliquer pourquoi on va dans un congrès des statistiques pour parler de ça. Excellent. D'autant plus que la statistique à l'époque, c'est aussi les moyens principaux de travail des hygiénistes, oui, qui sont bien sûr préoccupés par la santé des populations et la santé des armées. Et donc, c'est là est très important. Donc, une des causes importantes, c'est la conscience que le développement technologique des armes est en train de changer la qualité des blessures de guerre qui rend urgentissime le point de mesure. Est-ce que c'est là?
Je suis entièrement d'accord. Je regrette de ne pas y avoir pensé. C'est magnifique. C'est vraiment ça très juste. Alors moi, j'ai qu'un tout petit détail. Il y a quand même un des participants, je ne vois à la conférence, qui sera très rapidement honoré et remercié, c'est Louis Appiat. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, le 19 janvier 1864, donc 3 mois après, le journal de Genève, peut-être inspiré par Henri Dunant, signale que le docteur Louis Appiat est élevé au rang de croix du lion de Zähringen par le grand-duc de Bade, et on mentionne notamment pour sa publication du chirurgien à l'ambulance, et on mentionne que le grand-duc de Bade, l'un des premiers à soutenir les comités de secours en faveur des blessés, dû à l'initiative et à la persévérante activité de M. Henri Dunant. Donc, même pas trois mois après, Louis Appiat reçoit une décoration, donc avant Gustave Moigné, pour la Croix-Rouge.
Bon, Louis Appiat les cherchait. Hein.
Aussi.
On a eu une lettre extraordinaire d'Appiat. D'ailleurs, on n'a que 2 lettres d'Appiat Dunant jusqu'à présent. J'aimerais qu'on en ait plus. Et cette lettre, dans cette lettre, Appiat vante tous ses mérites lors de la campagne d'Italie, qu'il est allé là-bas, qu'il a soigné des blessés, qu'il y est allé à ses frais, qu'il a organisé une collecte depuis Genève, qu'il a mis au point un appareil pour le transport des blessés. Et il joint à cette lettre son petit livre sur le chirurgien en ambulance. Et vous savez pourquoi il écrit cette lettre à Dunant? Il lui dit, puisque vous allez voir M. Joubert, qui est le chambellan de l'empereur, veuillez lui remettre tout ce dossier, et lui rappeler combien j'étais favorable à la politique de l'empereur pour la libération de l'Italie. C'est vraiment la chasse, c'est la chasse à la Légion, ça. C'est évident. Je ne sais pas si Dunant s'est acquitté de cette mission, mais Appiat, vraiment, il est friand des décorations, c'est très bien que tu le rappelles, comme Dunant, comme Moigné. Bon, du fou, elles arrivaient toutes seules. Hein. C'est tout à fait révélateur.
Le lion de Tsering, c'est beau.
Voilà, ah oui, Valérie.
Oui.
Quelques éléments que j'ai expliqués en fait de disparition.
Ah oui.
Dans les mouvements de bienfaisance jusqu'en 1964, on comptait des thèmes très différents, autant la question pénitentiaire que les mouvements oubliés, que l'hygiène, que l'individualité. Et en fait, on peut constater qu'après, sur ce cas, et surtout après les années 1970, dans cette vague de. Il y a énormément de congrès qui se fait de plus en plus. En fait, il y a une spécialisation qui se fait. Donc, il n'y a pas une disparition totale de la bienfaisance, mais il y a une spécialisation. Et à partir du 30 septembre, voilà, on ne va plus réunir en congrès avec tous ces domaines, mais il y aura en congrès d'assistance. C'est en fait les congrès d'assistance qui suivent vraiment la voie de la bienfaisance. Il y aura des congrès, il y avait déjà des congrès pris de l'initiative. Cela se développe encore plus. Chaque domaine se spécialise et a son propre congrès et il n'y a plus de congrès globaux. Donc, philanthrope devient un spécialiste dans la lutte contre la crise, dans l'hygiène, dans la mutualité et dans l'assistance. C'est l'assistance publique et plus la bienfaisance en tant que conception globale.
Ah, voilà. Oui, merci.
Une dernière question. Là. Oui, il semble que cette conférence et congrès de la France était intégrée dans le contexte statistique après la mise en place du grand congrès, mais il y avait peut-être une section à ce congrès de statistique. on va faire une pause café d'environ 20 minutes en cérémonie, mais attention, dans la salle des abeilles, de l'autre côté du bâtiment, pour la deuxième partie de nos travaux.